Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission. Au microphone, Claude Julien. Mon invité ce matin, Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour, Francine.
Bonjour, Claude.
Aujourd'hui, le texte que nous traiterons se partage en deux parties. On va d'abord lire la première partie. C'est donc dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10e. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question: « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? » Jésus lui demanda: « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu? » L'autre répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. »
Alors, Claude, on va commenter maintenant cette première partie du récit, mais je veux tout de suite signaler que la seconde partie, qu'on commentera plus loin, c'est la parabole du bon samaritain. C'est une parabole propre à Luc, ça veut dire qu'on ne la trouve que dans Luc. Et le passage que vous venez de nous lire sert d'introduction à cette parabole. Ce passage-là, ces quelques versets, ils sont communs à Matthieu, Marc et Luc. Alors, ça veut dire que c'est Luc qui décide d'utiliser ce passage-là comme contexte ou introduction pour sa parabole du bon samaritain. Ce petit bout de texte que Luc prend chez Marc, il le modifie un peu pour l'ajuster à la catéchèse qu'il veut faire.
Particulièrement, d'abord la question. Hein, oui. Je pense la question du scribe: que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle, alors que Matthieu et Marc vont écrire quel est le plus grand commandement?
Oui, et c'est la question que les gens ont habituellement en mémoire. Quel est le plus grand commandement? C'est une question beaucoup plus objective. En fait, c'est une question posée sur un objet qui est en dehors de nous, hein, qui appelle la même réponse pour tout le monde, finalement. C'est la loi. Quelle est la plus grande loi? Il n'y a pas de « je », ni dans la question, ni dans la réponse. Alors que Luc, reformulant la question « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? », nous propose une question beaucoup plus personnelle. Celui qui la pose, il est inclus dans sa question « Que dois-je faire? » Et c'est une question plus vitale aussi. Ça concerne qu'est-ce qui est la clé de la vie humaine ou qu'est-ce qui est source de vie en nous. On n'est plus dans un débat de loi, mais finalement dans des questions qui concernent l'essentiel ou le sens même de la vie humaine.
C'est ça. Et la deuxième différence est dans la réponse, finalement. Hein. Dans Matthieu et Marc, c'est Jésus qui répond, alors que chez Luc, Jésus renvoie la question au scribe.
Oui, tout à fait. Donc, on continue d'impliquer la personne au lieu de revenir en objectivité. Et Jésus renvoie la question au scribe d'une manière vraiment intéressante. Il lui dit: « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu? » La traduction du lectionnaire ici laisse beaucoup à désirer. C'est « Dans la loi, qu'est-il écrit? Que lis-tu? » Bon, c'est deux fois la même question. Quels sont les mots qui sont écrits là? Alors que dans le grec, et aussi bien dans les traductions de la Bible de Jérusalem et de la Tome, c'est « Comment lis-tu? » Ça, c'est deux questions différentes. Quels sont les mots qui sont là? Qu'est-il écrit? Et « Comment lis-tu? Comment comprends-tu? » Toi, comme lecteur, comment tu vois les choses? De quelle manière tu lis? En fin de compte, c'est comment tu interprètes ce que tu lis. Alors, vous voyez, Jésus amène le scribe à s'impliquer encore davantage. Il était déjà impliqué dans sa question et là, il va devoir s'impliquer dans sa réponse aussi. Ça concerne encore la loi, mais c'est la loi en moi, pas en dehors de moi. Comment la loi loge dans ma vie ou en moi? Et cette manière d'impliquer la personne va marquer toute la suite du récit.
Okay.
D'abord, c'est la réponse du scribe. Après, ça sera la parabole. Mais donc, la réponse du scribe, ici, je rappelle que dans Matthieu et Marc, c'est Jésus qui donne la bonne réponse. Dans Luc, évidemment, c'est le scribe qui donne la même réponse que Jésus dans Matthieu et Marc, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain.
C'est ça. C'est une réponse qu'on trouve dans le Premier Testament, oui. Hein, au chapitre 6 du livre du Deutéronome. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. » Et au Lévitique, chapitre 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Oui. La nouveauté évangélique, c'est de mettre les deux ensemble. Hein. C'est d'établir en fait une équivalence. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Ou, pour le dire à la manière de Saint Jean dans sa lettre, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur.
Donc, deux commandements bien connus, mais oui. La nouveauté, c'est de les avoir mis les deux ensemble.
Voilà. Et ça, c'est une nouveauté de Jésus. Sauf que dans Luc, évidemment, c'est le scribe qui parle, c'est pas Jésus. Luc rapatrie la nouveauté dans la bouche du scribe, finalement. Bon, c'est intéressant aussi. D'abord, ça montre que Luc n'est pas soucieux de nous présenter un Jésus candidat pour un prix de nouveauté. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est que finalement, ce scribe devient un modèle de croyant qui prend position par rapport à son héritage religieux, qui est créatif. En prenant des choses qui sont là, qui sont pas ensemble, et il les met ensemble. À partir d'un effort interprétatif, il comprend deux lois bien connues, et il les comprend autrement. Comment lis-tu? Voici comment je lis. Je trouve, Claude, que c'est un bon exemple de ce qu'on doit faire avec notre propre tradition d'Église, hein, s'impliquer et la relire autrement, pour voir comment elle résonne aujourd'hui, ici et maintenant. Et dans ce sens-là, moi, je vois dans le texte de Luc une catéchèse, mieux une pédagogie de la foi adulte. Bon, ça, c'était la mise en contexte ou l'introduction, si on veut, que Luc fait à sa parabole du bon samaritain. Vous pourriez peut-être nous la lire maintenant, Claude?
Toujours au 10e chapitre de l'Évangile de Luc, on continue avec les versets 29 à 37. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut ému jusqu'aux entrailles. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, je te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois te semble être devenu le prochain de l'homme tombé entre les mains des bandits? Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. »
Claude, c'est une parabole très connue. J'aimerais commencer par les paroles qui encadrent la parabole, parce que ça influence la manière de la comprendre. Il y a deux questions, hein? La question du scribe qui est mon prochain et la question que Jésus pose après la parabole, on y reviendra. Ici, avec sa question, on dirait que le scribe reprend du recul. Au début, il est impliqué, vous vous rappelez, il était dans sa question et Jésus l'a impliqué plus encore. Bon, là, qu'est-ce que la loi me dit objectivement sur les autres que je dois aimer? C'est qui? Comment la loi définit ces autres-là? Et quand la loi nous arrive comme ça de l'extérieur, c'est comme une obligation qui m'est imposée. Alors, mieux vaut bien la définir pour définir le minimum auquel je suis obligé. On voit là la mise à distance. Qui est mon prochain, c'est qui est défini par la loi comme étant proche de moi, ou qui sont les gens que la loi m'oblige à aimer. Sous-entendu, ben, les autres, je serais pas obligé de les aimer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que après la parabole, Jésus va renvoyer au scribe sa question, mais en la renversant. Lequel des trois s'est montré le prochain de cet homme? Et il précise « à ton avis ». Il le réimplique.
Comme toi, tu le vois. Là.
C'est ça, il le renvoie encore à lui-même. Et la question n'est plus « qui est le prochain qu'on doit aimer », mais « qui s'est fait le prochain » ou « qui est devenu le prochain ». C'est le verbe « guinomai » qui est là. Hein? C'est le verbe « devenir ». Jésus demande « qui est devenu le prochain de cet homme ». L'homme blessé n'est pas défini par la loi comme le prochain que le Samaritain doit aimer, pas plus d'ailleurs qu'il est le prochain du prêtre et du lévite qui sont passés avant le Samaritain. Avec la parabole, on sort de la loi, c'est le Samaritain qui a décidé de devenir proche de cet homme qui était blessé. C'est son choix. Donc, du coup, vous voyez que l'autre, ça redéfinit la notion de prochain. Demande-toi pas qui est proche de toi pour que tu doives l'aimer, demande-toi de qui tu te fais proche. Jésus renverse le truc complètement. C'est pas l'autre qui est défini comme mon prochain, ça c'est l'approche de la loi, mais avec la parabole, c'est moi qui décide d'être le prochain de l'autre. Le prochain, c'est plus l'autre, c'est moi. C'est moi quand je me fais proche de l'autre qui est dans le besoin.
C'est ça.
Voyez comment c'est astucieux, Claude, cette catéchèse de Luc. Parce que du coup, la question, elle est renvoyée au lecteur. J'ai plus de loi qui me dit qui est mon prochain que je suis obligé d'aimer. Je suis, moi, obligé de me demander de qui vais-je devenir le prochain? De qui est-ce que je vais me faire proche? On voit qu'on n'est plus dans l'objectivité de la loi ici. Ça devient une exigence ou un appel intérieur. Ça ne peut plus être légaliste comme approche. C'est pour ça, Claude, que je trouvais ça important. Au tout début, le jeu d'implication du scribe dans sa propre question sur la vie éternelle et dans la question que Jésus lui renvoie aussi.
Oui, et maintenant on va un peu plus loin avec
oui,
la parabole.
Dans la parabole. Maintenant qu'on a vu le sens ou la clé contenue dans les questions qui l'encadrent. On peut signaler que la parabole ici, elle joue le même rôle que celle du récit de la femme chez Simon le pharisien qu'on a vu il y a quelques semaines. Jésus la raconte et ensuite il pose une question pour amener à réfléchir sur une autre façon de voir les choses. Bon, ce qui est le fun avec les paraboles, Claude, c'est que c'est une histoire inventée. Hein? On peut mettre ce qu'on veut dans une histoire inventée.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que Jésus choisit de mettre en scène dans cette histoire? Il choisit quatre personnages, trois bien définis, prêtre, lévite, samaritain. Le quatrième, c'est le blessé, tombé aux mains des brigands, laissé pour mort. C'est le seul sur lequel on n'a aucune information, rien sur son identité.
On ne sait pas si c'est un juif, un païen, un marchand.
On ne sait rien de lui. C'est n'importe qui, c'est tout le monde. Ça, c'est contraire à toute loi. Dans la loi de Moïse, le prochain est bien défini. Hein? C'est au Lévitique, au chapitre 19.
C'est d'abord le frère de sang.
Oui, hein?
le compatriote juif.
C'est ça. Et au verset 34, on ajoute « l'immigré installé chez vous ». Alors Jésus, en disant juste un homme, abolit toutes les catégories et tous les critères d'identité sur lesquels on pourrait baser une décision d'aider ou de pas aider. C'est effrayant quand on y pense, là. C'est toute la planète. Il n'y a aucun système de loi qui peut fonctionner comme ça, hein? Encore moins un esprit légaliste.
Et le lévite et le prêtre.
Alors ça, c'est un autre choix de Jésus. Il met en scène les plus hauts représentants de la foi juive. Dans les écrits juifs de cette époque-là, on constate que le lévite et surtout le prêtre, en fait, sont les plus proches de Dieu, même aux yeux du scribe. C'est essentiellement parce qu'ils sont associés au temple, hein, qui est le lieu signifiant la présence de Dieu. Alors, ils suivent des lois de pureté très strictes et ils mènent une vie bien conforme aux exigences de cette proximité de Dieu. Ils servent dans un lieu consacré par la sainteté même de Dieu. Alors, dans le vocabulaire de notre récit, on dirait « ce sont des proches de Dieu ». Pour être plus proche encore des mots, on pourrait dire « ils sont le prochain de Dieu ». Alors, Dieu les aime parce qu'ils sont proches de lui, son prochain.
Oui.
Évidemment, dans toutes les religions anciennes, le sacré est entouré de prescriptions rituelles très précises pour bien marquer la différence ou la frontière entre le sacré et le profane. Je dis religion ancienne, là, mais...
Ça reste à voir.
Encore aujourd'hui.
Ouais. Oui,
oui, oui.
Et parmi les lois, il faut, entre autres, éviter tout contact avec la mort et avec le sang, parce que c'est dans le domaine du tabou.
Et c'est associé à des forces obscures.
Hein? Oui, et c'est ça. Faut pas toucher parce que ça rend impropre au sacré. Faut pas mêler ça avec le sacré, en fait. Alors, en mettant en scène un prêtre et un lévite, Jésus les place dans une situation telle que ils n'ont pas naturellement le réflexe d'aider un homme sanglant, blessé, peut-être mourant. C'est aussi dans la loi de Moïse.
C'est ça, un prêtre, un lévite ne peut pas toucher l'homme qui entre dans la mort.
C'est ça, parce que ça le met en état d'impureté.
Et ça, c'est selon la loi, là, au verset, au Lévitique 21.
Oui.
Aucun prêtre ne se rendra impur près du cadavre de quelqu'un, sauf pour sa parenté proche.
C'est ça. Donc, c'est toujours la même logique. Tu aimes, ou en tout cas, tu es responsable de ceux qui sont proches de toi. Je tiens à préciser ici que se rendre impur, c'est pas se rendre pécheur. Hein. Tu es responsable de t'occuper de tes proches blessés ou malades. Simplement, ça te rend impropre au service du temple. Ça te rend impropre à t'approcher du sacré et donc de Dieu avant d'avoir fait des rites de purification appropriés. Bon, Jésus met en scène aussi un Samaritain. Alors ça, c'est clair aux yeux du scribe. Lui, c'est un loin de Dieu. Évidemment, le Samaritain ne pense pas ça lui-même. D'ailleurs, les Samaritains suivent aussi la loi de Moïse. Mais ce qui compte, c'est le point de vue du scribe, puisque c'est pour lui que Jésus invente cette histoire. Donc, c'est pour lui qu'il choisit de mettre en scène un Samaritain. Alors, c'est sûr que la finale va être choquante quand le scribe va devoir se prononcer sur lequel des trois a bien agi. Je pense pas que Jésus veuille être choquant pour être choquant. C'est pour faire choc. Hein? C'est ça le sens premier du mot « choquant ». Le but du choc ici est de faire réfléchir. Et le choc va être encore plus fort avec sa finale. Va et toi aussi, fais comme lui.
C'est ça.
Donc, on a là le commentaire le plus fréquent et très pertinent sur cette parabole. Le Samaritain nous est donné un exemple d'un comportement éthique qui est se faire proche du mal pris. C'est-à-dire... ne pas se demander « est-ce que lui est proche de moi? Est-ce que son identité correspond aux critères de proximité? Est-ce que c'est un prochain que je dois aider? » Mais se demander « a-t-il besoin? Puis-je faire quelque chose? Et si oui, c'est moi qui deviens son prochain. »
Et vous avez une autre piste pour aller plus loin.
Oui, mais qui ne contredit pas celle-là. Je dirais plutôt qu'il la pousse plus loin. Dans le commentaire que je viens de présenter, le Samaritain est proposé comme un exemple pour nous. On pourrait dire que le Samaritain nous représente. Mais je vous propose de voir aussi dans le Samaritain une image de Dieu. Ça nous amènerait à ce moment-là à voir toute la loi autrement, à y voir la loi que Dieu vit lui-même. C'est-à-dire, finalement, ce serait la règle de vie de Dieu et donc ce qui est source de vie pour nous. Ça rejoint bien la question de départ. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais ça la rejoint par l'autre bout. Non pas que dois-je faire pour mériter que Dieu me donne la vie éternelle, mais que dois-je faire pour me brancher sur ce qui fait la vie même de Dieu? Alors, comment puis-je dire que le Samaritain peut être une figure de Dieu? D'abord, il y a d'autres paraboles dans Luc où Dieu est mis en scène à travers un personnage. La plus connue est la parabole du fils prodigue où le père représente Dieu. Pour notre parabole, ce sont les mots que Luc a choisis qui m'amènent à penser qu'on peut voir dans le Samaritain une représentation de Dieu. Plus précisément, les mots qui désignent la façon d'agir du Samaritain. On a ça à deux endroits dans la parabole. Au verset 33, d'abord, Luc nous dit ce qui fait agir le Samaritain. Il voit le blessé et il fut pris de pitié. Le verbe qui est là traduit littéralement « il fut ému aux entrailles ». C'est un verbe qui est fait avec le mot grec « entrailles », le ventre, les tripes. Ça lui fait mal aux tripes.
Un coup de poing dans le ventre.
C'est ça. Et ce mot-là, qu'il soit sous forme de verbe ou de nom, Ça ne revient que 4 fois en tout dans l'Évangile de Luc. Donc, ça veut dire qu'il l'emploie avec soin et ça lui donne une grande portée. Je vous signale les 3 autres emplois. Vous vous rappellerez Claude, une fois c'est Jésus, quand il voit la veuve de Naïm qui s'en va enterrer son fils unique, il est ému aux entrailles, bouleversé. Une autre fois, c'est dans la parabole bien connue du fils prodigue, quand le père voit revenir son fils, il est ému aux entrailles et il se met à courir vers lui. Et je rappelle que le père de cette parabole est une figure de Dieu. Et la 3e fois, imaginez-vous, Claude, c'est à propos de Dieu lui-même. C'est le père de Jean-Baptiste, dans la longue prière qu'on appelle le Benedictus. Zacharie parle du salut qui est révélé au peuple grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu. C'est au chapitre 1, verset 78. En passant, Luc est le seul à appliquer ce verbe à Dieu lui-même. Directement, là, pas dans une parabole. Alors, ça, c'est la première manière dont Luc qualifie l'agir du Samaritain, avec ce verbe qui sert une fois pour Jésus et 2 fois pour Dieu en parabole ou en direct. Au verset 37, on a la 2e qualification. Elle est dite par le scribe quand Jésus lui demande « Qui s'est montré le prochain de cet homme? » Le scribe répond « C'est celui qui a fait la miséricorde envers lui. » En grec, c'est « Eleos » qu'on a ici. Pensez à notre « Kyrie eleison » qui vient du grec. Éléos, c'est pitié, comme Seigneur prend pitié, c'est miséricorde, c'est compassion aussi. Dans Luc, on trouve ce nom 6 fois. Et en dehors de cette parabole, c'est toujours, toujours à propos de l'agir de Dieu. Et c'est toujours au chapitre 1 de l'Évangile de Luc. C'est surtout dans les prières du chapitre 1, le Magnificat, le Benedictus, mais aussi le narrateur. Et ça a rapport, finalement, avec le Dieu qui sauve, avec l'histoire du salut. Alors, Claude, il me semble que le choix de ces mots-là pour parler du Samaritain, après tout, Luc aurait pu prendre d'autres mots.
Oui.
Je sais pas, moi, le scribe aurait pu répondre « c'est celui qui a pris soin de lui ». Le choix de ces mots-là nous invite à voir dans le Samaritain une certaine figure de Dieu. Autrement dit, Luc nous proposerait ici une certaine façon de comprendre Dieu. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme réflexion sur Dieu? Ben, si le Samaritain, c'est pas juste un modèle d'agir pour nous, ça veut dire que son agir nous parle de la manière d'agir de Dieu. J'aimerais revenir un instant aux prêtres et aux lévites. S'ils ne se sont pas arrêtés, au fond, c'est à cause d'une certaine manière de voir Dieu, une certaine théologie qui est reliée au temple. Et tout le système théologique mis en scène par le temple, c'est que on doit s'approcher de Dieu, ça demande un certain nombre de conditions, des efforts, et on fait pas ça n'importe comment. Et c'est grâce à ces efforts qu'on peut être plus proche de lui. Et en retour, Dieu va leur communiquer sa sainteté. Alors, Dieu va les aimer. Il aime ceux qui sont proches de lui. On est dans la même logique que le scribe. Qui est mon prochain? Qui est assez proche de moi pour que je l'aime? Dieu, comme le scribe, prend soin de ceux qui sont proches de lui. Sauf que, on l'a vu, Jésus a renversé la question du scribe. Non pas se demander qui est proche de moi, que je l'aime, mais de qui je deviens le proche, de qui je me fais proche. Et il a présenté le Samaritain comme une possible image de Dieu. Alors, c'est comme si Luc nous disait « Dieu fait aussi cela ». C'est Dieu qui se fait proche. Dieu se fait le prochain de ceux qui sont loin. Alors là, on est dans la bonne nouvelle. On est dans la même bonne nouvelle que celle du berger qui cherche sa brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. On n'est plus du tout dans la loi. Et si on est invité à agir ainsi, « Va et toi aussi fais de même », conclut Jésus, c'est pour que notre éthique soit conforme à l'éthique de Dieu, pour que notre pratique reflète la pratique de Dieu. La loi qui m'est proposée, c'est la loi que Dieu pratique lui-même. Alors, si c'est la vie même de Dieu qui est comme ça, je comprends pourquoi ça arrive en réponse à la question que Luc a modifiée. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? c'est d'inscrire déjà dans ma vie ce qui est le vivre même de Dieu.
Bien. Alors, mon invité ce matin, Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.